Radio Kapi. Oh,
Kapi. Pascal Masiri Kabissimo, la présentation du journal.
Les titres de l'actualité, la marche des opposants a été dispersée ce samedi à Kinshasa pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapwe, Matata Ponyo et Délice Sanga protestaient contre la vie chère, l'insécurité généralisée et l'opacité dans les préparatifs des élections. 16 civils tués, bilan de l'incursion des rebelles ougandais LDF hier à Katula, village de la chefferie de Bachou au sud-est de Beni. Les assaillants se seraient déguisés en soldats des FARDC venus sécuriser les habitants qui étaient en deuil, selon Émile Balukucha, élu de Beni. Notre invité, c'est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma au Nord Kivu, Kasereka Mahinda, affirme qu'une intense activité s'observe depuis hier vendredi dans le cratère du volcan Nyamulagira. Madame, Messieurs, bonsoir. À Kinshasa, la marche de l'opposition autorisée a été dispersée par la police nationale pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapwe, Auguste Matata Ponyo et Délice Sanga entendaient protester contre la vie chère, l'insécurité généralisée et l'opacité dans les préparatifs des élections prévues en décembre prochain en RDC. Les quatre opposants et leurs militants ont été bloqués par la police qui a fait usage du gaz lacrymogène. Plusieurs militants de ces partis politiques ont été interpellés. L'opposition signale des blessés graves. Le récit de Paul Matendo.
L'avenue Kianza, comprise entre les communes de Lemba et Ngaba, s'est transformée en un théâtre d'affrontement entre la police et les manifestants. Ces derniers, qui répondaient à l'appel de leurs leaders politiques, n'ont même pas eu le temps de quitter le point de départ de leur marche. Plusieurs violences et brutalités entrecoupées par des coups de gaz lacrymogènes et des jets de pierres ont été observés. Selon Prince Epengé, l'un des communicateurs de Lamouka, une dizaine de blessés enregistrés parmi les manifestants. Outre les blessés, d'autres personnes ont été interpellés, comme le député provincial Mike Mukibayi. Pendant ce temps, Martin Fayulu Madidi, Augustin Matata Ponyo, Délice Sanga et Moïse Katumbi étaient assiégés par la police à Ngaba. Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, a déclaré pendant cette manifestation, je cite, « Cette marche est l'expression de la souffrance de la population ». Fin de citation. Les éléments de la Croix-Rouge de la RDC étaient également visibles pour s'occuper de l'évacuation des victimes lors de la manifestation.
Attristé par l'événement, Moïse Katumbi Tchapwe fait remarquer qu'avant les gaz lacrymogènes, les policiers ont tiré à balles réelles. Le leader d'Ensemble pour la République regrette que cette répression de la population soit l'œuvre du régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, un ancien opposant. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Tomber dans nos véhicules des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-ins que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens, qui malheureusement est dénoncée par la population.
C'était plutôt Matata Ponyo qui s'adressait à la presse après cette manifestation dont un extrait a été proposé par Alain Rungmouchige. Pour sa part, le gouverneur de la ville de Kinshasa dit avoir amèrement constaté que les partis politiques de l'opposition SID, LGD, Ensemble pour la République et En Vol ont violé les orientations qui ont été données à la réunion d'harmonisation tenue à l'hôtel des villes aux secrétaires généraux mandatés le 18 mai en vue de préserver l'ordre public. Gentil Ngobila l'a dit dans un communiqué publié ce samedi. D'autres précisions avec vous, Alain Rungmouchige.
Dans ce communiqué, le gouverneur de la ville de Kinshasa affirme que plusieurs actes de vandalisme des services publics, notamment des commissariats de police et bureaux de quartier, ont été posés dans la commune de Ngaba par des militants identifiés SID et Ensemble. Par ailleurs, tout en condamnant quelques dérapages commis par certains policiers, ici est de noter que la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est déployée pour préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, souligne le communiqué. Face au non-respect des indications sécuritaire émanant de la réunion d'harmonisation si haut indiquée, notamment dans le non-respect de l'itinéraire librement choisi à travers leur correspondance et considérant les actes délictueux commis par les militants mobilisés, une plainte sera déposée dès ce lundi 22 mai 2023 à charge des organisateurs pour faire valoir ce que de droit, conclut Jean-Tinin Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa.
Pour sa part, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa qualifie d'acte ignoble la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant un mineur torturé par des policiers. Joint par Radio Okapi, le général Sylvanou Kasongo annonce déjà l'arrestation des trois policiers parmi les auteurs de cet acte. Il est au micro de Paul Matendo.
Oui, j'ai vu la vidéo et c'est un acte ignoble. Alors ça c'est un comportement indigne de la police, de notre éthique. Alors ça c'est, nous avons mené des investigations. Nous avons déjà trois policiers qui sont aux arrêts chez nous, qui sont aux arrêts et ils seront déférés à la justice militaire pour répondre à des actes. Vous savez, la police, nous sommes une police de proximité et surtout nous avons la vision du commandant suprême, l'état de droit. Les policiers ne peuvent pas se permettre à commettre de telles bavures, de tels dérapages, ne sont pas acceptés dans la police.
Vous avez déjà mis la main sur trois policiers, mais il y a eu plus de trois policiers. Certains seraient en fuite ou bien comment?
Écoutez, les enquêtes continuent. Nous avons arrêté trois, le reste, on a dû les rechercher. C'est une enquête. C'est une clameur publique à partir de la vidéo.
De son côté, le ministre des Droits humains condamne tous les actes de violence enregistrés au cours de la manifestation d'aujourd'hui à Kinshasa. Dans un communiqué, Fabrice Puela demande l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités. Partons maintenant pour le Nord Kivu où 16 civils ont été tués par les rebelles ougandais de l'ADF à Katula, village de la chefferie de Bachou, au sud-est du territoire de Beni. Les assaillants se seraient déguisés en soldats des FARDC venus sécuriser les habitants qui étaient en deuil. Émile Balikwisha fait remarquer que les rebelles ougandais de l'ADF ont changé de mode opératoire. L'élu de Beni appelle les FARDC à s'adapter à cette situation pour sécuriser la population. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
Les assaillants se sont fait passer pour des soldats FARDC en prétendant venir sécuriser les victimes dans un lieu de deuil avant de les exécuter sauvagement plus de 2 heures après. De notre côté, nous condamnons cet acte, mais nous exhortons à notre population à beaucoup plus de vigilance car les EDF changent chaque jour leur mode opératoire. Aujourd'hui, ils se baladent en état très propre, avec des tenues propres, en se faisant passer pour des soldats FARDC afin de nous tuer facilement et chercher à nous opposer également à notre force de défense. Comme l'ennemi vient de changer le mode opératoire pour tuer notre population, il faudrait que les forces de sécurité aussi songent dans l'urgence au changement de stratégie. Parce que l'ennemi ne doit pas changer de stratégie et que les forces de défense restent avec des anciennes stratégies. Ça, c'est exposer sciemment notre population. Nous continuons toujours à soutenir les efforts de la pacification. Nous ne serons pas découragés. Nous suggérerons lutter pour favoriser l'avancement de ces opérations afin que ça puisse produire un bon résultat parce que nous avons besoin de la paix.
Nord Kivu encore, la 34e région militaire a lancé ce samedi une campagne dénommée Participation citoyenne à la sécurité de la ville de Goma. Son porte-parole parlait d'une initiative qui a été prise dans le cadre de la coopération civilo-militaire contre l'insécurité en ce moment où, selon lui, les rebelles du M23 et d'autres groupes armés rôdent autour de la ville. Il précise que des groupes de travail réunissant des civils et des militaires des FARDC sont déployés dans les 18 quartiers de la ville. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko est au micro de Bernard Nenyangi.
Vous êtes sans oublier que ces derniers temps, il y a eu hausse de criminalité dans la ville de Goma. Eu égard à cela, la 34e région militaire a mis en place une task force composée de toutes les couches de la population de notre province. Nous avons pris en compte la cartographie de la ville de Goma. Et les quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la task force. L'objectif, c'est cette sécurité participative, de manière à ce que toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre ville, en commençant par les militaires, les policiers, les mouvements citoyens, même les rejetés de la société. Et d'ailleurs, les résultats de cette task force commencent déjà à se faire voir. Ça fait déjà plusieurs jours qu'à Katoï, il n'y a pas de tir de balle, qu'on n'enregistre plus de morts. Et cela va nous permettre de rester concentrés parce que l'ennemi qui se trouve être l'M23 appuyé par l'armée rwandaise rôde tout autour.
Rappelons que c'est depuis le mois d'avril dernier que le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezo Mbele, a entamé ses activités pour renforcer la sécurité dans la ville de Goma. Et puis en Ituri, une dizaine de leaders des groupes armés, dont 6 démobilisés du site de Diango, localité située à 12 km de la ville de Bunia, participent depuis hier vendredi aux travaux préparatoires du projet PDDRCS pour la réinsertion d'ex-combattants. À ce projet exécuté par l'OIM, l'Organisation mondiale de migration vise notamment à impliquer les leaders communautaires dans la recherche d'une paix durable. Le gouverneur salue cette démarche appuyée par la MONUSCO. À Bunia, la correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
5 entités coutumières du territoire d'Irumu qui sont Mobala, Andisoma, Baema d'Irumu, Babelebe, Babo Abokoe sont les zones ciblées par ce projet qui vise surtout la réinsertion des ex-combattants. 6 d'entre eux issus des différents groupes armés Codeco, FPIC ainsi que des Wazalendu venus d'Opienge dans la province de la Tchopo prennent part également à ces assises. La société civile locale se réjouit du caractère inclusif et de cette approche dans la matérialisation de certains projets de développement de la province. Guili Gotabo, son président.
C'est pour la première fois que ces ex-combattants soient vraiment encadrés par certains projets dans le territoire du Rwanda. Ils ont commis réellement des crimes, mais nous, en tant qu'humains, nous sommes obligés de les pardonner pour vivre ensemble dans la communauté.
Pour sa part, le chef des bureaux de l'Organisation internationale des migrations, OIM, 2000 personnes, dont 1000 membres des groupes armés, seront utilisées comme main d'œuvre pour appuyer les efforts du développement communautaire. Michel Thia.
Nous mettons l'accent sur la communauté par la réhabilitation des infrastructures, mais aussi des activités qu'on appelle activités immobiles, pour que la paix en Ituri soit effective.
Le gouvernement provincial ainsi que la MONUSCO invitent d'autres fils et filles de cette province qui ont pris les armes à les rendre et contribuer efficacement au retour de la paix en Ituri. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans l'actualité du Sud Kivu, il y a aussi l'inauguration et la remise officielle hier, vendredi, d'une clinique médicale à la prison de Mulungé dans la ville d'Uvira. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO qui permet de soutenir les institutions nationales et l'amélioration des conditions carcérales. Reportage à Uvira de Fiston Goma Mayabala.
Le bâtiment est construit en dur, pimpa neuf. On y retrouve 2 salles d'hospitalisation avec des lits, un laboratoire avec du matériel, une pharmacie avec des médicaments, un mini-bloc opératoire outillé, une salle de consultation pour le médecin, une salle de réunion ainsi que des toilettes. Le maire de la ville, Kiza Mouato, a reçu officiellement les clés de cet immeuble.
Je remercie la MONUSCO car ce projet a abouti d'accepter constamment nos projets à Uvira et bien plus pour nous construire cette clinique ici et de lui doter des lits, de matelas et des médicaments, et il y a même un véhicule que je lui ai demandé pour amener les prisonniers au tribunal. Cette clinique a été construite uniquement pour les prisonniers et pas pour les gens de l'extérieur.
Selon le directeur de cette prison, Amisikabu Emmanuel, les détenus seront pris en charge localement pour des cas de paludisme, des cas d'infection respiratoire, dont la tuberculose, ainsi que de maladies cutanées, des cas de hernie qui nécessitaient des opérations chirurgicales. En dehors, à l'hôpital général, seront traités dans cette clinique. Cet ouvrage s'ajoute à d'autres projets qu'a déjà bénéficié la présence urbaine d'Uvira de la part de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Près de 30 000 dollars américains. Des fonds programmatiques ont été alloués au financement des travaux de construction et d'équipement de ces bâtiments. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Annoncé en avril dernier par le président sénégalais Macky Sall, le dialogue national avec les différents acteurs politiques s'ouvre le 30 mai prochain dans un climat politique tendu au pays, à 9 mois de l'élection présidentielle de février 2024. Les opposants Ousmane Sonko, Aminata Touré et Détié Fall ont déjà refusé d'y participer. Le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade a accepté à condition qu'un audit contradictoire du fichier électoral soit réalisé au plus vite. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce samedi après-midi à Hiroshima pour participer au sommet du G7 qui se tient jusqu'à dimanche. L'avion de la République française qui l'a cheminé depuis l'Arabie Saoudite où il a fait une escale vendredi a atterri à l'aéroport de la ville japonaise et où les tapis rouges a été déroulé pour sa descente d'avion, ont constaté des journalistes de l'AFP. En réaction, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a estimé que les décisions prises au sommet du G7 à Hiroshima visent notamment à contenir la Russie. Pour sa part, la Chine a exprimé son mécontentement après la publication d'un communiqué lui adressant plusieurs reproches sur la mer méridionale, les droits de l'homme ou ses supposées ingérences. Le G7 s'obstine également à discréditer et manipuler les questions liées à la Chine, a déploré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma au Nord Kivu. Kasere Kamainda affirme qu'une intense activité s'observe depuis vendredi soir au sommet du volcan Nyamulagira. Il parle d'une éruption au niveau du cratère. Il s'entretient avec Bernard Nyangi.
Monsieur Kasere Kamainda, bonjour.
Bonjour.
Depuis hier, il y a un phénomène qui est observé sur le mont Nyamulagira. C'est quoi exactement?
Il est vrai que depuis un certain temps, le Nyamulagira est en activité. Mais à l'intérieur de son cratère. Sa dernière éruption sur le flanc date de 2011. Mais depuis le 9 mai 2023, nous sommes en train d'observer un phénomène spécial. Le Nyamulagira, c'est un cratère de 2,5 km de diamètre. Et il y a de l'activité de lac de lave et ça coule vers la partie nord-ouest, mais dans les cratères. C'est pas encore sorti sur le flanc. Le 17, en collaboration avec nos collègues scientifiques internationaux, on a produit un bulletin pour dire que il est actif à l'intérieur du cratère et du côté nord-ouest, il y a une forte pente. Et que si ça sortait du cratère, ça va se diriger dans le parc, puisque le Nyamulagira est complètement dans le parc.
Alors, mais ce que les gens ne comprennent pas encore bien, c'est quoi la lave qui coule à l'intérieur du cratère?
Il y a des puits dans le cratère de Nyamulagira. Il y a l'activité. Quand les puits débordent, comme le cratère est vaste, il y aura des coulées de lave. Ça déborde, c'est comme une marmite. Là où vous avez mis beaucoup d'eau, l'eau peut déborder. Mais en restant dans le cratère. Mais ça, c'est une matière à forte chaleur. La température est au-delà de 1200 degrés. Et la journée, vous ne pouvez pas voir ça, mais la nuit, ça éclaire, ça illumine, et vous pouvez voir le ciel rouge.
Et c'est la lueur qui panique les gens.
Qui panique les gens. Alors, il s'est fait que nous avions produit le même 17 là-bas, un bulletin, pour informer les gens, les donner un détail. Donc, nous avons prévenu. Alors, ce qui s'est passé maintenant le 19, avant 18h, il y a encore cette activité qui a augmenté. Et quand vous observez nos données, vous voyez que l'énergie a augmenté. Ça a dépassé le seuil. Alors, au même moment qu'il y avait une cette forte lueur, la direction du vent était vers la partie du nord vers le sud. Et ça, comme ce sont des volcans de Nyiragongo, de Nyamulagira, ce sont des volcans qui sont séparés seulement par 14 kilomètres, cette lueur s'est rabattue sur les volcans Nyiragongo et dans les villages environnants. Et les gens paniquent. Et finalement, Nyiragongo vient d'entrer en éruption. Et comme c'est lundi, on est proche du 22 mai. Ils se sont rappelés directement de l'éruption de 2021. Du 22 mai, on dit fini. C'est parti. Alors, j'ai aucun paniqué. Mais on avait déjà informé l'autorité. Même la MONUSCO était informée. Puisque, compte tenu de la sécurité, si la MONUSCO nous aidait à avoir des images de drones. Et nous étions tous informés. Et le gouverneur a produit un communiqué qui parlait dans ce sens là-bas. Donc cette fois-ci, ça n'était pas une surprise.
Et puis, jusqu'à ce stade, donc il n'y a rien à paniquer, et surtout pour la ville de Goma, mais peut-être dans la zone de Kichanga.
D'une manière directe, le Nyamulagira ne menace pas Goma, puisque le Nyiragongo constitue déjà une barrière. pour les coulées de lave de Nyamulagira. S'il y a des coulées de lave, peut-être d'une manière indirecte, ça peut couper la route de ravitaillement de Goma.
C'est vers où, par exemple?
C'est la route Goma-Sake. Donc on n'aura plus de vivres de ce côté-là. Alors, d'une manière aussi indirecte, quand le Nyamulagira entre en éruption, il injecte dans l'atmosphère des produits volcaniques, cendres volcaniques, des cheveux de pellets, des scories. Des scories, ce sont comme des braises. Et ça, ça sera bas sur les cultures. Alors, si la population consomme cette nourriture, mais les légumes non lavés, ça va impacter, ça va nuire à la santé humaine.
Mais nous ne sommes pas encore là.
Non, non, il y a des produits dans l'atmosphère, puisqu'il y a une activité. Même le gouverneur bien signifié dans son communiqué qu'il faut bien laver les légumes, mais avec de l'eau propre. L'eau de pluie, ça s'est pollué. Ça, c'est ce qu'il faut éviter.
On peut dire que le cycle d'éruption du volcan Nyamulagira est visiblement relativement court par rapport au Nyiragongo.
Ce sont des volcans qu'il ne faut pas comparer. Le Nyiragongo, lui, il est parmi les 4 volcans, si pas 5, dans le monde qui ont un lac de lave permanent. Le Nyamulagira, lui aussi, il est actif, mais il n'a pas un lac de lave permanent. Mais cette fois-ci, depuis 2014, janvier 2014, nous avons cette activité toujours à l'intérieur du cratère. À l'éruption de 1938, il n'y avait pas d'observations telles que nous les avons. Pour le moment, on accentue les observations, mais nous sommes en train de les faire par satellite. Nous avons des données sur place ici pour voir comment l'énergie a augmenté. Il n'y a pas encore un débit important pour que la lave coule. Mais si ça coule, ça va se limiter dans les parcs.
Monsieur Kasser Kamainda, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma au Nord Kivu. Kasere Kamainda a été interviewé à Goma par Bernard Danyangi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.